Que le Seigneur soit béni. L'apôtre Paul a dit, si la trompette rend un son confus, qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qu'il ajoute? Qui se préparera au combat? Si la parole de Dieu n'est pas claire, comme le son d'une trompette, si la parole de Dieu n'est pas précise, les croyants ne se prépareront pas. Un chrétien, il doit se préparer. Il veut voir la gloire de Dieu comme nous l'avons chanté. Je pense que vous avez tous chanté ce beau cantique. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Vous l'avez chanté? Est-ce que nous réalisons ce que nous chantons? En tous les cas, je vais vous aider par la prédication cet après-midi à voir ce qu'il faut faire pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Lorsque Jésus est venu, son ministère a été précédé par quoi? Par le ministère de Jean-Baptiste. Jésus aurait pu arriver sans le ministère Jean-Baptiste. Après tout, on pourrait dire, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que vraiment il fallait que Jean-Baptiste vienne? En plus, il a été catalogué par Jésus lui-même comme étant le plus grand prophète, le plus grand homme sur la terre. Oui ou non? Pourtant, il n'a pas fait de miracle, mais il a préparé le peuple à avoir un cœur bien disposé. On pourrait le lire dans l'évangile de Luc. Nous voyons quand Zacharie est surpris parce qu'il est en train de faire son service dans le temple et tout d'un coup, un ange lui apparut pour lui révéler ce qu'il va faire au travers de l'enfant qu'il va avoir avec son épouse Élisabée. Alors, on va lire ce qui nous intéresse, évangile de Luc, chapitre 1er, verset 11. Vous aimeriez qu'un ange vous apparaisse? Oui? Vous savez, vous êtes loin de savoir le nombre de fois où ils vous ont gardé déjà. Mais si vous les aviez vus, vous vous seriez enorgueillis. Donc Dieu préfère que vous ne les voyez pas. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Luc 1, 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme, Élisabeth, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. J'en profite pour vous dire que quand l'ange est apparu, il y avait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé à son peuple. Entre le prophète entre Malachie et l'évangile de Matthieu, il y a 400 ans de silence. Il était temps. Verset 14, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin, c'est ça qui nous intéresse, de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Voilà pourquoi Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu, pour que le peuple de Dieu se prépare au ministère de Jésus-Christ. Et tout le long de la Bible, nous voyons que lorsque Dieu a voulu faire quelque chose de glorieux, il a dû préparer le peuple. Alors la question que je nous pose cet après-midi, ça va se recouper avec tout ce que nous avons dit ce matin. Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? Bon. Je commence. Voilà. Est-ce que vous croyez que Dieu veut que nous voyions sa gloire? Est-ce que c'est sa volonté? Bien sûr. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la voie de la croix? Pour nous sauver et pour manifester sa gloire, car tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, la venue de Jésus a été préparée. Et la venue de Jésus a, bien sûr, par son sacrifice, amené la gloire de Dieu dans l'Église primitive le jour de la Pentecôte. Lorsque Dieu a voulu un temple, il y a eu toute une préparation. Lisez vraiment la façon dont le temple a dû être préparé, c'est une affaire incroyable. Et tout a été fait, ça a pris des années. Mais lorsque le temple a été construit, lorsque tout a été fait selon le modèle, la gloire de Dieu est descendue sur le temple de Salomon. Quelle grâce, quelle bénédiction. La gloire de Dieu est descendue. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, même dans le désert, Dieu a absolument voulu un lieu où il puisse manifester sa présence, manifester sa gloire, et il a été ordonné à Moïse de construire le tabernacle. Et Moïse l'a fait, ça a pris énormément de temps, Dieu a qualifié des hommes, ils ont construit un tabernacle, et quand tout a été fini, la gloire de Dieu est tombée sur le tabernacle. Dieu voulait manifester sa gloire. Lorsque vous lisez le livre des Actes, vous avez le modèle de ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse tout à nouveau manifester sa gloire. Si vous avez lu les Actes, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui domine dans l'église de Jérusalem. Alors on le lit ensemble, c'est un état d'esprit qui est un choix parce que on est conscient de la grâce, de la présence et surtout de la sainteté de Dieu. Dans le livre des Actes, nous voyons comment l'église prospérait. Aucun programme, juste un état d'esprit. Alors on le lit ensemble, Actes chapitre 9, verset 31. Dans un contexte quand même de persécution. Actes 9, verset 31. L'église était tempée dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant. Comment l'église primitive marchait? Il n'est parlé que d'une vertu. Laquelle? La crainte du Seigneur. Et elle était en paix. Mais c'est sûr que quand vous avez la crainte de Dieu, laissez-moi vous dire que la paix, elle suit. Ça, c'est évitable. Les chrétiens qui n'ont pas la paix, parce qu'ils n'ont pas la crainte du Seigneur. Mais ça, c'est incontournable. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur. La suite, ça ne m'étonne pas, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce que nous avons besoin, le seul programme que nous avons besoin, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Il est au milieu de nous, il est en vous. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Chaque chrétien, si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, si vous êtes passé par la nouvelle naissance, Dieu peut vous dire, vous tuez le temple du Saint-Esprit. Donc vous savez si vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si vous vous êtes repenti, converti, vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Alors il y a toute une préparation. C'est pas, on peut chanter « Dieu, nous voulons voir ta gloire », on peut le chanter pendant 3 semaines sans s'arrêter, on peut se relayer dans l'église, faire des chaînes de chants, des chaînes de louanges. C'est pas pour ça qu'on va voir la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut chanter in aeternum, Dieu, nous voulons voir ta gloire, on va tous s'épuiser, on va s'égosiller, mais on ne verra rien du tout, sinon peut-être quelques progrès dans le champ. Dieu demande une chose, de préparer le chemin du Seigneur. Dieu ne marche pas n'importe où. Il faut préparer le chemin. C'est quelque chose comme ça. Dieu veut marcher au milieu de nous. Dieu veut marcher dans l'église. Dieu veut marcher dans nos réunions. Mais pour cela, il faut un cœur bien disposé. Un autre texte, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, nous voyons que ce sont des choses très sérieuses. S'il y a des promesses infinies. Vous en connaissez combien de promesses, au fait? Dites-moi, combien de promesses connaissez-vous? Parce que vous avez lu la Bible, même plusieurs fois. Mais est-ce que vous avez retenu toutes les promesses? Non. Bon. Mais ces promesses, est-ce qu'elles sont d'actualité? Est-ce qu'elles sont toutes valables? Un pécheur, par exemple, un pécheur, qui n'a jamais entendu l'Évangile, il ne sait pas que Dieu l'aime. Mais est-ce que Dieu l'aime? Oui. Vous voyez, il ne le sait pas. Mais, en vérité, c'est une grande vérité, Dieu l'aime. Et c'est pareil pour nous. Il y a plein de promesses que nous ne réalisons pas, mais elles sont pour nous. D'accord? Alors, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, nous voyons que le Seigneur demande de faire certaines choses pour qu'il puisse habiter et marcher au milieu de nous. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Voilà la volonté de Dieu. Habiter et marcher au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, c'est ça la préparation, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans l'amour de Dieu. C'est ça que vous avez? Dans la crainte de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une évidence, on va en parler si on a le temps. Mais nous voyons une chose, pour que Dieu puisse se manifester, car quand Dieu marche au milieu de son peuple, c'est pour y intervenir. Donc, il y a des choses à faire, il faut se préparer. Ce matin, nous avons utilisé un autre texte dans Isaïe 40, où il est dit « Une voix crie, préparez le chemin du Seigneur ». On voit que le Seigneur a énormément de mal à se faire entendre, c'est pour ça qu'il est dit « Une voix crie ». Il aurait pu être écrit « Dieu dit ». Non, ça va beaucoup plus loin, ce qui prouve l'assourdissement du peuple de Dieu. Quand Dieu crie, c'est qu'il est obligé d'élever la voix. Comme nous avons fait parfois avec nos enfants, ils n'écoutaient pas, on leur disait « Lucas fait ça, Lucas fait ça », à la 20e fois, « Lucas fait ça ». Et il essayait de le faire. Vous n'avez pas fait pareil avec vos enfants? Vous avez fait pareil? Ah, il est là, c'est vrai. Hein? Voilà, une voix crie. Bon, pour les enfants, ce n'est pas trop grave. Quoique, ils risquent d'avoir une mauvaise éducation s'ils n'écoutent pas. Mais pour le peuple de Dieu, que de conséquences lorsqu'on n'écoute pas Dieu. Et cet après-midi, nous allons voir en quelques instants, avant de prendre la Sainte Cène, l'importance de comprendre comment Dieu peut se manifester. Nous savons tous que Dieu est au milieu de nous. Et nous sommes heureux de ce que le Seigneur Jésus ait fait cette immense promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous êtes rassurés par cette promesse? Vous devriez tous dire amen. Je ne suis pas moi pour que les auditoires de suite, mais franchement, est-ce que vous réalisez la portée de cette promesse? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, même si des fois on mériterait qu'il s'éloigne, c'est pas vrai? Mais je suis avec vous tous les jours. Alors il y a une préparation. Le temple a dû être préparé, le tabernacle a dû être préparé, la tente d'assignation a dû être préparée, l'église s'est préparée. Après le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu a toujours envoyé quelqu'un pour préparer le peuple. C'est pour ça que Jean-Baptiste devait les sortir un peu de leur tradition, de leur léthargie, de leur tiédeur, de leur illusion. Ils croyaient que parce qu'ils étaient les fils d'Abraham, que parce que c'était le peuple de l'Alliance, ils croyaient qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu et que tout allait bien. Mais ils n'obéissaient pas à Dieu. Ils avaient annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Vous l'avez lu, c'est Jésus lui-même qui les reprend, qui leur fait ce reproche. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jean-Baptiste est arrivé avec un cran de plus que les autres en disant, voilà, race de vipères. Qu'il était dur ce Jean-Baptiste. Il était méchant Jean-Baptiste. Ne vous trouvez pas qu'il était méchant? Hein? Il était méchant. Je pense que Jean-Baptiste aimait l'œuvre de Dieu. Et il les a interpellés avec des expressions qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais c'était une expression qui voulait dire long sur leur hypocrisie, sur leur duplicité. Ce peuple n'était pas prêt à accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Et le message de Jean-Baptiste a été d'une grande, grande, grande profondeur, puisque c'était un baptême de repentance que Jean-Baptiste préconisait. C'était pas un baptême comme le nôtre aujourd'hui, qui est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'était beaucoup plus sévère. C'était un baptême de repentance, c'est-à-dire une immersion totale dans un changement total. Lorsque le Seigneur nous interpelle, ce n'est pas pour améliorer. Il a dit, Jésus, il ne faut pas mettre une pièce de drap neuf sur un drap usé, sinon la déchirure serait pire. Il ne faut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Pourquoi? Parce que la vieille outre a déjà été étirée et elle va craquer. Jean-Baptiste, pour préparer la venue de Jésus-Christ, a prêché un baptême de repentance, c'est-à-dire un changement profond pour que vraiment, l'Église, le peuple d'Israël soit prêt. Et certains se sont préparés, béni soit le Seigneur. Certains étaient prêts. Lorsque Jésus appelait Philippe, lorsque Jésus appelait André, Simon, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient prêts? Eh bien oui, merci Seigneur. Il fallait qu'il y ait toute une préparation. Oui, un baptême de repentance. Je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il me semble nécessaire qu'il y ait beaucoup de repentance. Est-ce que c'est c'est écrit que l'Église doit passer par la repentance. Est-ce que c'est écrit? Ben oui. Dans les 7 églises de l'Apocalypse, je crois qu'il y en a 6 où Dieu demande de se repentir. Je crois qu'il y a l'église de Philadelphie où il ne le demande pas, si je ne me trompe pas, mais sur 7 églises, Dieu demande à 6 églises de se repentir car c'est le seul moyen pour retrouver un cœur qui va lui être agréable. Donc il faut se préparer. Jésus, le peuple était préparé, Jésus est venu, il a obtenu la rédemption éternel, et lorsque Jésus est venu, et lorsqu'il est mort, vous savez ce qui s'est passé dans le temple entre le lieu saint et le lieu très saint. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a tout accompli? Le voile du temple s'est déchiré. Quand le voile du temple s'est déchiré, ça indiquait que Dieu n'allait plus se manifester au moyen d'un lieu, d'un sanctuaire, d'un temple, d'un tabernacle, pour faire allusion à l'Ancien Testament, que Dieu allait se manifester à travers un autre temple. Et le temple, le nouveau temple, c'est qui? C'est nous. On l'a lu, vous êtes le temple du Dieu vivant. Si vous avez accepté Jésus-Christ, votre corps, votre cœur, votre âme, votre esprit est le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. Et si notre temple est souillé, si notre temple est sale, si notre temple est rempli de saleté, ne nous attendons pas à ce que la gloire de Dieu se manifeste, même si nous sommes frustrés parce que nous ne comprenons pas et pourquoi Dieu n'agit pas. Vous savez, malheur, malheur, malheur à l'homme qui conteste avec Dieu. Est-ce que c'est écrit? Malheur à l'homme qui discute et qui explique à Dieu ce qu'il devrait faire et qui explique à Dieu comment il aurait dû agir dans telle ou telle circonstance. Malheur, malheur à l'homme qui conteste avec Dieu. S'il y a un problème, laissez-moi vous dire qu'il ne sera jamais du côté du Seigneur. Dieu voulait manifester sa gloire, il a préparé le peuple, Jean-Baptiste a fait son travail, Jésus-Christ est venu, il manifeste sa grandeur, il meurt sur le bois de la croix et il va préparer la gloire de Dieu. Comment? Par la Pentecôte. Et pour que la gloire de Dieu se manifeste dans le livre des Actes, il n'y avait qu'une chose à faire. C'était quoi? Qu'est-ce que Jésus avait dit au peuple? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pour que le feu du ciel descende, car vous savez que le feu est descendu par des flammes sur chacun des croyants qui étaient là, sur les 120 qui étaient là, le sacrifice avait été offert, c'était Jésus-Christ, un sacrifice parfait. Il lui fallait le nouveau temple. Le nouveau temple, c'est-à-dire l'Église. Et sur les dizaines et centaines de milliers qui avaient été bénis par Jésus-Christ, ils ne se sont retrouvés que 120 à avoir pris au sérieux ce commandement. Et c'est vrai que, on l'a lu ce matin dans Ésaïe 66, Dieu dit « Voici sur qui je porterai mes regards ». Sur celui qui craint ma parole. Des milliers, vous croyez qu'il y en a beaucoup qui ont été bénis quand Jésus est venu? Est-ce qu'il n'y a pas eu des villes entières qui ont été bénies? Tous les malades de certaines villes ont été guéris. Ce n'était pas merveilleux? Mais quand Jésus a donné un ordre, restez à Jérusalem, il n'y en a que 120 qui se sont calés sur ce commandement et qui ont attendu dans la chambre haute jusqu'à ce que la promesse se réalise. Il nous est dit qu'ils étaient tous ensemble, d'un même cœur. Gloire à Dieu pour l'unité. C'est magnifique l'unité. L'unité est-elle possible aujourd'hui? C'est une question. C'est une question que l'on doit poser. Est-ce que l'unité est possible? Est-ce qu'on peut s'unir toutes les églises avec un programme d'évangélisation? Est-ce que c'est possible? Moi, je vous dis non. Ce n'est possible que si l'on est passé par la mort à soi-même. Ces 120 disciples représentent des hommes et des femmes qui étaient morts à eux-mêmes. Ils avaient accepté d'obéir, de faire ce que Dieu demandait. Ils ne sont pas partis dans des programmes et tout un tas de choses à faire. Non, ils ont fait ce que Dieu demandait. Ils n'avaient aucun programme. Ils voulaient obéir au Seigneur Jésus-Christ. Ont-ils eu raison? Eh bien oui. Parce qu'en obéissant, la gloire de Dieu s'est manifestée Que le nom du Seigneur soit béni. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, il nous faut peut-être tout à nouveau une vraie repentance dans les églises. Il nous faut tout à nouveau réapprendre à craindre la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ? Si Dieu le dit, c'est important. Est-ce que c'est important ce que Dieu dit ? Eh oui, on a trop de gens qui font comme exactement Adam et Ève, pourtant eux aussi ils ont désobéi. Et la gloire de Dieu est partie du jardin d'Éden. Oui ou non ? Pourtant, ils n'avaient pas de parents, Adam et Ève, ils n'avaient pas de parents qui les ont brutalisés, ils n'avaient pas des voisins alcooliques. Est-ce qu'ils étaient dans un bon contexte, Adam et Ève ? Des fois, on dit, oui, vous comprenez, j'ai désobéi parce que j'ai une mauvaise éducation. On en trouve des prétextes. Adam et Ève, moi, je trouve que ce n'était pas trop mal pour eux quand même. Vous ne trouvez pas que c'était bien pour eux ? Vous voyez ? Ils n'ont pas eu la crainte de Dieu à un moment. Et voilà. Et vous avez vu le résultat. C'est pourquoi c'est toujours un choix de désobéir au Seigneur, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. Et misérables ceux qui véritablement cherchent des prétextes pour justifier leur désobéissance. Oui, Adam et Ève, à un moment donné, ont choisi de désobéir à Dieu. Eux attendaient dans la chambre haute et la gloire de Dieu s'est manifestée. Quelle bénédiction, le résultat, on peut le lire quand même. Acte 2, 43. C'est important de lire ces choses. Parce que quand l'homme obéit, son cœur montre cette crainte de Dieu. Acte 2, 43. Il y avait une persévérance. Les chrétiens persévéraient. Ils voulaient voir la gloire de Dieu. Moi, quand on chantait tout à l'heure « Dieu, nous voulons voir ta gloire », je me dis, mais est-ce qu'on veut persévérer dans les choses auxquelles Dieu nous demande d'obéir ? Acte 2, on peut lire le verset 42. Il persévérait. Il y a quatre piliers dans lesquels il faut absolument persévérer. Ça, c'est notre modèle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Il y avait, dans le cœur des chrétiens, cette compréhension que l'œuvre de Dieu se développe par cette persévérance. Résultat, verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Conséquence, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Voyez, la crainte s'emparait de chacun. La présence de Dieu et surtout la manifestation de la présence de Dieu faisait que la crainte s'emparait. La présence de Dieu n'amène pas la crainte. C'est la gloire de Dieu, quand elle se manifeste, qui amène les gens à avoir la crainte. Mais on peut être enseigné dans la crainte de l'Éternel. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire. L'apôtre Pierre a vécu avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Il a vécu la Pentecôte et il savait quel conseil donner pour que ces choses reviennent dans l'Église. Et si vous lisez avec moi dans 1 Pierre au chapitre 1er, lui qui a connu l'amour de Jésus, parce que quand Pierre a été réhabilité, je pense qu'il a vraiment connu ce qu'était l'amour profond du Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez avec moi dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre au chapitre 1er et au verset 15, je rappelle, Pierre a vécu cela. Il a vécu la Pentecôte. Il a vécu l'histoire d'Ananias et Saphira, puisque c'était le premier intervenant dans cette affaire. On va y revenir. 1 Pierre chapitre 1er, verset 15. « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et c'est le verset 17 qui nous intéresse. « Et si vous invoquez, alors est-ce que vous invoquez comme père celui qui juge, selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Avec respect. La crainte, c'est le respect. Un respect profond des choses spirituelles. Pierre a vécu ces choses. L'Église était consciente de la sainteté du Seigneur. On est étonné la première fois qu'on lit le livre des Actes. Moi, je crois que c'est la première chose qui m'a étonné, plus que le baptême du Saint-Esprit, c'est de voir que lorsqu'un couple s'est mis d'accord pour mentir à l'Église, pour mentir à Dieu, sur la vente d'un terrain qu'ils avaient voulu vendre pour bénir l'Église, Il y avait un homme de Chypre qui avait vendu toute une propriété, et peut-être que dans l'église, on ne parlait que de ce couple qui avait vendu une propriété, ça avait fait une somme énorme pour l'église. Et Ananias et Saphira, qui peut-être étaient peut-être un peu jaloux, on dit, eh bien, écoute, on va vendre un terrain, et on m'écoute quand même, tu as vu la somme que ça fait cher. 100 000 euros, ça fait cher. Allez, on va en donner que 80. Et on dira qu'on a donné toute la somme. Pourquoi ils ont fait ça? Ça ne tient pas debout. Et est-ce qu'ils étaient libres de donner 10 000 euros, 5 000 euros, 50 euros? Est-ce qu'ils étaient libres? Ben oui. Et ils ont eu cette idée, voyez, la jalousie. Certainement, ça vient de là. Je ne sais rien. De toute façon, il s'est passé quelque chose. C'est qu'ils ont menti. Et quand Pierre va le révéler, mais est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu le terrain? Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est tombé mort. Pierre. Ananias est tombé mort au pied de Pierre dans le temple. Quelques heures après, son épouse, ne sachant pas ce qui était arrivé, arrive dans le temple et on recommence. Au fait, est-ce que c'est à ce prix que vous... Oui, c'est à ce prix. Et cette femme est tombée morte dans le temple. Et il est dit, on lit la fin, lisons-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens se sont plaints. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, le Seigneur Jésus, c'est ça. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui a instauré l'Église pour que les gens meurent dans le temple? Non. C'est là qu'on voit la prise de conscience de la sainteté de Dieu. Acte 5, verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Conséquence, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Conséquence, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le jugement est-il tombé sur Ananias et Saphira? Pourquoi le jugement ne tombe-t-il pas sur les chrétiens qui mentent? Parce qu'il n'y a plus la gloire de Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Dès qu'il y a la gloire de Dieu et qu'il y a péché, il y a jugement. C'est une évidence. Lorsque Moïse a construit le tabernacle et que tout a été accompli, ils ont dû offrir des sacrifices et Dieu a envoyé le feu sur le sacrifice parce que tout avait été fait à la lettre. Et voilà que les neveux de Moïse, Nadab et Abihu, n'ont pas trouvé mieux que de vouloir présenter une offrande à leur façon. Vous connaissez cette affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont apporté du feu étranger, ils avaient reçu l'onction. La gloire de Dieu était dans le peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont offert une offrande à leur guise. Et quand ils ont offert l'offrande, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts, consumés par le feu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était dans la tente d'assignation et parce que quand il y a la gloire et que le péché est dans le peuple, il y a immédiatement le jugement. Dès qu'il n'y a plus la gloire de Dieu, il n'y a pas le jugement, mais il est différé le jugement. C'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de chrétiens s'autorisent à pécher. Ils disent, mais ouf, heureusement que ce n'est pas comme du temps des actes. Eh bien, dis donc, hein, si chaque fois qu'un chrétien ment, eh bien, il était foudroyé sur place, il y aurait de la place dans les églises. Et on ne peut pas rire avec ça. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur ne juge pas sur le coup que le jugement est annulé. Laissez-moi vous dire, j'espère que vous connaissez un peu la parole, que le jugement, il est reporté. Lorsque les fils d'Élie couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation, lorsqu'ils prenaient de force les viandes, vous savez, ils ne voulaient pas la viande cuite. Eux, ils aimaient la chair fraîche. Et ils prenaient de force les morceaux de viande qui les intéressaient. Pourquoi? Pour les vendre, je ne sais rien. Mais une chose est sûre, est-ce que le feu de Dieu est tombé sur eux? Non. Ils péchaient. Combien de temps ça a duré? Dieu n'intervenait pas. Mais le jugement a été reporté. Et on pourrait prendre plein d'exemples. Quand la gloire de Dieu vient, le jugement est imminent. Quand David a ramené l'arche en Israël, 25 ans après à peu près, c'était avec Samuel, vous savez, quand David a obtenu la royauté, la première chose qu'il a voulu, c'est ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et vous savez, quand le char a basculé sur un escarpement du terrain, qu'un jeune homme a voulu la maintenir pour pas qu'elle tombe, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu revenait en Israël. Dès qu'il y a la gloire, écoutez, il vous faut le comprendre, dès qu'il y a la gloire, il peut y avoir le jugement de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, attendons-nous à ce que certaines choses se passent. Est-ce que ça vaudrait la peine quand même? Mais bien sûr. Quoi de mieux que de voir la gloire de Dieu? C'est pour ça qu'il faut préparer le terrain pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Le Seigneur le dit dans ce fameux texte d'Ésaïe, préparez au Seigneur, préparez le chemin du Seigneur, que toute montagne soit abaissée, que toute vallée soit relevée, afin de préparer le chemin, alors la gloire de Dieu se manifestera. Au même instant, la gloire de Dieu sera révélée. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est notre responsabilité. Il ne faut pas dire, bon, c'est le rôle du pasteur d'amener la gloire de Dieu dans l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est à chacun de nous de travailler. Est-ce que je suis sanctifié? Est-ce que vraiment je ne suis pas un interdit dans l'Église? Est-ce que je ne suis pas une pierre d'achoppement? Est-ce que je ne regarde pas des choses souillées qui font que ça empêche le Seigneur de se manifester? Si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'êtes pas engagé, tout ça, ça ne vous concerne pas, entre guillemets. Mais si vous êtes chrétien, vous avez le devoir de travailler en sorte que le nom du Seigneur soit sanctifié. C'est pour ça que je vous ai dit que les 120 étaient morts à eux-mêmes. Dieu avait dit « Restez à Jérusalem ». Eh bien, on reste à Jérusalem. Ils avaient abandonné leur intérêt personnel. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vaqué à leurs affaires. Ils ne sont pas restés 10 jours enfermés dans la chambre haute. Mais dès qu'ils pouvaient, ils venaient. Dieu avait dit « Restez à Jérusalem ». Priez, louez, ils l'ont fait. Ils se sont préparer. La gloire de Dieu n'est pas descendue comme ça. Il y a eu toute une préparation. Si nous voulons chanter ce cantique ou continuer à le chanter, il faut que nous puissions dire en même temps, Seigneur, il faut que je prépare ou que je réapprenne à préparer mon cœur, mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. La crainte s'emparait de chacun. Quand ils ont vu cette affaire dans l'église de Jérusalem, ça n'a pas été la consternation, ça a été une grande remise en question. Ils ont compris que Dieu était plein d'amour, mais que Dieu était aussi saint et redoutable. Est-ce que vous le croyez que Dieu est saint? Puisque celui qui vous appelait est saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Voilà notre modèle. Ce n'est pas des programmes. Moi, des fois, on me dit, monsieur Gaudet, je n'en veux pas de programme. Il n'y en a qu'un programme, c'est celui d'être rempli de crainte. On a besoin d'amour. Rien ne peut se faire sans amour. C'est vrai que la vertu la plus importante, c'est d'aimer. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. L'amour nous attache à Dieu. C'est par amour, notre cœur est pressé. Nous avons besoin de nous attacher à Dieu. Mais ce n'est pas l'amour qui nous empêche de pécher. Ananias et Saphira, est-ce qu'ils ont vu la gloire de Dieu? Ben oui. Je veux dire, avec tout ce qui s'est passé, avant qu'il leur arrive ce drame, est-ce qu'ils ont vu la gloire de Dieu? Ben oui, ils faisaient peut-être même partie des 120, c'est fort possible. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les miracles, ils aimaient Jésus. Quand ils ont vendu le champ, même s'ils ont magouillé, ce qui était ridicule, ils l'ont fait par amour pour Dieu. Mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont menti. L'amour vous attache à Dieu, la crainte vous détourne du mal. Et c'est écrit plusieurs fois dans la Bible que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. À Nadab et Abihu, est-ce qu'ils aimaient Dieu? Est-ce qu'ils aimaient Dieu, Nadab et Abihu? Mais oui, mais pareil, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils se sont autorisés à servir Dieu à leur façon. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et nous devons veiller, parce que même David, qui était un homme de Dieu, selon le cœur de Dieu, a voulu ramener l'arche, et il n'a pas fait attention qu'on ne porte pas l'arche à sa façon. Il devait lire dans la parole de Dieu. Et peut-être que malgré le fait que pourtant c'est quelqu'un qui tenait debout, David. Est-ce que c'était quelqu'un qui tenait debout? Et il y a un texte que, je ne sais pas si je l'ai marqué sur mes notes, à savoir que les rois devaient lire chaque jour la Bible. Ils devaient avoir une copie des Écritures afin qu'ils la lisent chaque jour et qu'ils aient la crainte de Dieu dans leur cœur. Alors si David s'est fait avoir, est-ce que nous pouvons nous aussi nous faire avoir? Et c'est pour cela qu'il faut revenir à l'Écriture. Comment ton œuvre doit-elle être portée? Comment devons-nous nous occuper de l'œuvre de Dieu? Eh bien, nous devons nous occuper de l'œuvre de Dieu avec une immense crainte. Qu'est-ce que Dieu dit? Comment l'Église doit être dirigée? Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a des églises qui font tout ce qu'ils peuvent pour que la gloire de Dieu se manifeste et ces églises se vident, les gens rétrogradent, les chrétiens divorcent, on voit une misère, pas possible. Et pourtant, ils utilisent tous les moyens qu'ils ont pour que Dieu se manifeste. Dieu ne se manifeste que quand on craint sa parole. C'est vrai que pour aimer Dieu, pour connaître Dieu, il faut l'aimer. Mais ça ne suffit pas, l'amour. Ça ne suffit pas. Et c'est ça le problème. Beaucoup de gens se disent, oh, moi j'aime Dieu. Moi je suis peiné lorsque je vois la quantité de chrétiens qui rétrogradent. Quand vous discutez avec eux, mais j'aime Dieu. Mais ils rétrogradent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. L'amour est important. Un véritable amour est quelque chose d'important. Mais si vous faites l'image d'un Dieu qui est qu'amour, vous avez une image de Dieu fausse. Et c'est ce qui est entré aujourd'hui dans les églises. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu permet tout, Dieu est miséricordieux. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, vous faites ce que vous voulez. Dieu pardonne tout. Ce n'est pas le Dieu de l'Évangile. Dieu est amour, Dieu est saint. Dieu est un feu dévorant. Et croyez-moi que Dieu ne se révélera pas là où il n'y a pas le respect de sa parole. Il y a un psaume, un verset du psaume 25 qui dit « La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». Vous voulez connaître la pensée de Dieu? Est-ce que c'est important la pensée de Dieu pour vous? Qu'est-ce qu'elle a besoin l'Église de Jésus-Christ? De la pensée du Seigneur. C'est tout. On a besoin de la pensée de Dieu. Je le disais ce matin, moi, vous savez, ça fait 13 ans que je suis ici, je peux prendre dans mes prédications passées, paf, une prédication, et vous la portez, ça ira bien, je pense. Mais ce n'est pas pour ça qu'on aura la pensée de Dieu. Et les hommes qui craignent Dieu sont soucieux, ils ne sont pas en train de pinailler, de discuter la parole de Dieu, ils la reçoivent comme faisant autorité. Je reviens à Ananias et Saphira, ils aimaient Dieu, c'est certain, mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu, mais ils n'avaient pas compris cela. Je pensais à Lucifer. Lucifer, est-ce qu'il n'a pas vu la gloire de Dieu? Vous savez que c'était un chérubin protecteur, qui naviguait dans la gloire de Dieu. Vous savez, voilà, il aimait Dieu, c'est inévitable, mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Et il a cru qu'il pouvait s'élever contre le Seigneur. Et toutes les fois que quelqu'un a chuté, ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas Dieu, c'est parce qu'il n'avait pas la crainte de Dieu. Le Proverbe 16, verset 6 le dit, « Par la crainte de l'Éternel, on s'éloigne du mal. » Voilà ce qui fait que les chrétiens restent fidèles jusqu'à la fin. Ils ont la crainte de l'Éternel. Pas la peur, mais le respect des choses de Dieu. On va terminer avec deux exemples qu'on a vus ce matin. Je voudrais que vous veniez avec moi dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. On va lire au temps de la reconstruction du temple. Dans le prophète Agée, nous voyons que les travaux traînaient. Dieu avait demandé la reconstruction du temple. Qu'est-ce qui se passe? Ça traîne, les années passent, ça traîne. Le peuple de Dieu a commencé à dire, c'est pas le temps, il faut faire d'abord la maison, puis après on verra le temple, ça fait des années que ça traîne, on peut attendre 2 ans de plus. Agée, chapitre 1er, verset 2. Regardez ce que le peuple disait. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Vous voyez, il disait, on a le temps. Dieu avait dit de le bâtir. Et ça faisait, je crois, 16 ans que ça traînait. Le temps n'est pas venu, Jésus va bientôt revenir. Allez. Alors regardez, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empréchez chacun pour sa maison. Voilà ce qui s'est passé. Le peuple ne voulait pas travailler comme il l'aurait dû à la reconstruction du temple. Ils se sont relâchés, les années ont passé, ça traînait. Alors, leurs affaires personnelles avaient pris le dessus sur les affaires de Dieu. Alors, c'est la question qu'il faut que nous nous posions. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important aujourd'hui pour vous, pour toi? Il faut que vous puissiez vraiment répondre à cette question. Parce qu'on est devant Dieu, c'est quelque chose d'urgent, de déterminant par rapport à ce que nous voulons. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, où en est l'Église aujourd'hui? Où en êtes-vous? Qu'est-ce que c'est pour vous l'Église? Est-ce que c'est important l'avancement du royaume, le salut des âmes, la passion des âmes, la passion des perdus? Vous avez vu? Vous avez fait plein de choses, ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que vos intérêts personnels passent avant la maison du Seigneur. C'est ce qui est écrit. Je le résume à ma façon, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, dans quel état est la maison du Seigneur aujourd'hui? Dans quel état sommes-nous spirituellement? Si nous sommes ensemble, entre ce matin et cet après-midi, nous sommes 300, 450. Combien? Comment? Quand tu regardes les 400 personnes de l'Église, comment sommes-nous? Quel temple ils voient? Ce temple a-t-il besoin d'être reconstruit? Quand ils vous regardent à chacun individuellement, est-ce que vous pouvez dire, oui, mon cœur, ça va, il faut que je persévère, je suis d'accord, mais j'honore le Seigneur. Dieu est en premier dans ma vie. C'est quoi qui passe en premier? Votre maison? Attention, on va nous répondre. Est-ce que c'est bien d'avoir une maison? Est-ce que c'est bien? Bien sûr, merci Seigneur. Si vous avez une belle maison, bénissez le Seigneur. Dieu n'était pas contre le fait qu'ils aient une belle maison. C'est Dieu qui bénit. Si vous avez une belle maison, eh bien, glorifiez Dieu. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des biens matériels. Ça n'a aucune importance. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, ce n'est pas pour ça. Dieu ne vous tiendra pas rigueur de ça. Mais ce que Dieu veut savoir, c'est ce que vous devez savoir, parce que Dieu le sait. Ce que vous devez savoir, qu'est-ce que c'est qui passe en premier? Vos intérêts, vos affaires, vos problèmes ou la maison de Dieu. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'après tout ce qu'il faisait, ça ne servait à rien. Et Agé les a repris sévèrement. Mais regardez si ça valait la peine. Regardez leur réaction au chapitre 12. Parce que le problème d'une prédication, qu'elle soit sévère, c'est bon, c'est bien. Après tout, il faut considérer la bonté de Dieu, il faut considérer la sévérité de Dieu. Le problème, ce n'est pas dans un de ces deux aspects. Le problème, c'est comment je réagis quand Dieu me parle avec bonté, quand Dieu me parle avec sévérité. Alors, Dieu leur a parlé avec sévérité, mais est-ce que ça valait la peine? Agé, chapitre 1, verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et, regardez bien, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Alléluia. Est-ce que ça vaut la peine une prédication sévère, parfois quand elle vient de Dieu, bien sûr? Si ça vient d'un pasteur qui cherche à imposer sa vision, tout ça, c'est d'un ridicule pas possible. Mais quand c'est la pensée de Dieu qui nous montre que ce qu'il faut retrouver, c'est la crainte de l'Éternel, car quand un homme est rempli de crainte et de respect, c'est la volonté de Dieu qui est prioritaire. Est-ce que vous me comprenez? Quand il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu est en premier. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont attachés au Seigneur. Mais s'ils n'ont pas la crainte de Dieu, Dieu n'est pas en premier. La maison va être en premier, le boulot, j'en sais rien, les enfants, autre chose. Et tout ça, il faut. Il faut, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire que l'infidèle. Mais il n'empêche qu'il faut d'abord que l'œuvre de Dieu soit en premier dans notre vie. Un siècle plus tard, suivez avec moi dans le prophète Malachie, c'est pareil. Il s'était embarqué dans des offrandes bizarres. Ils avaient pris l'habitude d'être très négligents au niveau des offrandes. Et c'est vrai que c'est un sujet assez délicat. Mais voyez, ils en étaient arrivés à s'autoriser certaines choses. Lisez le prophète Malachie. Lisez-le. Ne le lisez pas. Méditez-le. Et regardez comment les hommes parlaient. Et vous verrez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la même manière. Regardez. Alors, le prophète Agé, verset 6. Un fils, Malachie, Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père. Amen. Un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi vous nous méprisez ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Vous voyez, quand on parle de l'œuvre de Dieu de cette façon-là, ça ne va pas bien se passer. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Vous lirez, s'il vous plaît, la suite. Et Dieu est en train de dire, mais tu m'appelles maître? Mais tu m'appelles maître? Mais tu m'appelles Seigneur? Mais où est l'honneur qui m'est dû? Le peuple gardait pour lui ce qui revenait à Dieu. Vous savez, Dieu nous a bénis. C'est Dieu qui nous a tout donné. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous êtes d'accord? Mais la question que Dieu nous pose cet après-midi, ce que vous devez donner à Dieu, qu'est-ce que vous en faites? Au-delà de la dîme, vous lirez la suite, c'était un problème encore plus sévère dans le royaume de Dieu à cette époque-là. Mais au-delà de la dîme, ce que le Seigneur vous demande de lui donner. Par exemple, la louange. Tiens, j'en parle jamais de la louange, parce que pour moi, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas tellement, c'est quelque chose de spontané. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que la louange revient à Dieu? Est-ce que c'est écrit ça? Est-ce que tous les hommes doivent adorer Dieu? Est-ce que c'est écrit? Vous voyez? La louange, ça revient à Dieu. On n'a pas à dire, oui, j'adore, j'adore pas, je suis timide, je suis pas timide. Dieu veut qu'on l'adore. Je pense que c'est écrit plusieurs fois. Est-ce que ça revient à Dieu, l'adoration? C'est non négociable, ça. Si vous négociez ça, c'est que vous n'avez pas pris conscience, vous ne craignez pas la parole. Alors vous le faites à haute voix, mais ou pas, mais peut-être, j'espère que vous le faites chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas jugé quelqu'un qui ne le fait pas. Mais je veux dire, il y a d'autres moments pour adorer le Seigneur également. Où est la crainte qui m'est due? Tu m'appelles Seigneur? Tu chantes, Dieu, nous voulons voir ta gloire? Dieu pourrait nous le dire, ça. Mais tu te rends compte? Tu as chanté, Dieu, nous voulons voir ta gloire, et tu gardes pour toi ce qui me revient. Il y a des choses, Dieu veut que nous les lui offrions. Et Dieu veut que nous offrions le meilleur de notre vie. J'espère que chacun de vous, quand vous servez Dieu dans l'église, je pense aux musiciens, vous le faites consciencieusement, vous le faites sérieusement, on ne joue pas du piano pour jouer du piano. Je pense que c'est une offrande à Dieu, on s'applique. Oui ou non? Tout ce qu'on fait, on doit le faire d'une manière sérieuse. Et ce peuple s'autorisait, voyez, ah la brebis là, ah, et chérie, la brebis aveugle là, tu vois qui boite là, qui est toute maigrichonne, on va donner celle-là au temple demain. Ça, on ne perdra pas grand-chose. Et en même temps, on obéira à Dieu. Ouf. Eh oui. Mais ça, Dieu le voit, voyez. Comment on offre à Dieu? Comment vous, la dîme, comment vous l'offrez au Seigneur? Est-ce que c'est un honneur d'offrir, d'apporter votre dîme au Seigneur? Est-ce que c'est bien? C'est sérieux, c'est pas là, on n'est pas dans le matériel, là. On est dans le spirituel. Comment j'offre mon offrande? Dans quel état d'esprit je l'offre? Comment? Où est l'honneur qui m'est dû? Ce matin, j'ai parlé de la ponctualité, parce que c'est quelque chose quand même. C'est le premier petit pas. Si certains chrétiens travaillaient pour leur patron comme ils travaillent pour Dieu, au bout d'une semaine, ils seraient renvoyés. Quand on respecte Dieu, je crois qu'on arrive à l'heure à l'église. Oui ou non? Est-ce qu'un chrétien peut s'autoriser à arriver avec 10 minutes de retard au culte? Ça peut arriver, il y a peut-être un empêchement. Est-ce que c'est moi qui exagère? Mais Dieu dit, mais où est l'honneur qui m'est dû? Quand on n'arrive jamais en retard au travail, pourquoi on n'arrive jamais en retard au travail? Pourquoi? Parce qu'on a la crainte du patron. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ce que le Seigneur est en train de faire dans la Bible, il est en train de comparer le comportement des gens par rapport aux hommes ou par rapport à Dieu. Et il dit, mais où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que c'est important d'arriver à l'heure au travail? Mais qui c'est qui est le plus important? Dieu ou votre patron? Qui c'est pour vous le plus important? Et répondez. Répondez pas moi, au Seigneur. C'est qui le plus important pour vous? Le patron ou le Seigneur? Alors, c'est bien la preuve que nous avons plus de crainte pour les hommes que pour Dieu. Un chrétien qui respecte Dieu, il n'arrive pas en retard, à moins qu'il y ait un empêchement. Ça peut arriver. Mais comme on l'a constaté, il y a des chrétiens qui ont tous les dimanches un empêchement. Ce n'est pas à nous de juger. Mais quand même, la parole de Dieu le dit. Et heureusement qu'il y a eu des prédicateurs comme Agé. Heureusement qu'il y a eu des prédicateurs comme Malachi. Est-ce qu'il ne faut pas prier aujourd'hui pour qu'il y ait des pasteurs comme ça? C'est pas ça qu'il faut aujourd'hui dans les églises? Ou est-ce qu'on a besoin de prédications qui nous fassent plaisir? Des fois, les gens qui disent, oh, monsieur Gauche, moi j'aime bien les prédications qui me font plaisir. Vous savez, ça veut tout dire, je comprends vite les messages. Je crois qu'on n'a pas besoin de prédications qui nous fassent plaisir. On a besoin d'entendre ce que Dieu veut nous faire faire. Ce que Dieu veut nous dire vraiment. Et ce que Dieu nous demande, c'est que la crainte revienne. L'église primitive a connu la gloire de Dieu parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Comment rendons-nous gloire à Dieu? Comment je fais valoir le talent que Dieu m'a confié? Est-ce que Dieu vous a confié un talent? Non? Dieu ne vous a pas confié des talents? Si, oui. Comment les faites-vous valoir? Est-ce que vous faites valoir le talent que Dieu vous a donné? Est-ce que Dieu ne mérite pas que l'on fasse valoir le talent qu'il nous a donné? Est-ce que je viens dans sa maison pour être servi? Ou est-ce que je viens pour servir? Si vous posez la question. Mais ce n'est pas moi qui vous pose la question. C'est le Seigneur. Pourquoi vous venez dans sa maison? Pour être servi ou pour servir? Si vous venez pour être servi, vous êtes en danger. C'est vrai que ma responsabilité à moi, c'est de vous enseigner, par exemple, ce sujet, la crainte de l'Éternel, pour que nous développions cette vertu, afin que la présence de Dieu puisse se transformer par une onction qui amènera la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, je vous le dis, elle ne viendra pas par des cantiques qui interpellent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle viendra avec des chrétiens qui s'attacheront à Dieu et des chrétiens qui seront remplis de crainte. Ça, c'est mal, je m'en détourne. Voilà la crainte de l'Éternel. Dieu le dit, je porterai mes regards sur celui qui craint ma parole, pas sur celui qui discute la parole. Et moi, je vois aujourd'hui combien de croyants discutent la parole. Des fois, on me l'avait proposé, monsieur Gau, on devrait faire un débat sur... Je lui dis, mais j'en veux pas de débat. On n'a pas besoin de débat. On a besoin d'une chose, d'obéir à la parole du Seigneur. Vous avez vu dans Agé, le prédicateur, il n'était pas marrant, hein? Mais est-ce que ça valait pas la peine? Ils ont été remplis de crainte. Le résultat, la priorité a été restaurée et ils ont construit le temple de Jérusalem et le Seigneur a béni. Vous lirez la suite. Lorsque Élie a reconstruit l'autel, lorsqu'il a reconstruit le temple, l'autel, et qu'il a mis le taureau dessus, il a prié et le feu de Dieu est descendu sur l'autel. Ça représente la gloire de Dieu qui revenait en Israël. Malgré qu'après ça n'a pas été facile, il n'empêche que la gloire de Dieu est revenue. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Je vous le répète mes frères, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans une église, de jouer la comédie, de vivre dans le péché, après de venir dans l'église, parce que le jugement apparemment n'intervient pas. En vérité, je le répète, il n'est que différé. Mais si vous jouez avec le péché, croyez-moi, vous en porterez la peine. Si vous vivez dans le péché, vous en payerez les conséquences. Ne pensez pas parce que vous regardez des saletés à la télé, « Ah, Dieu ne me juge pas. Heureusement que ce n'est pas comme du temps de l'église primitive. » Mais j'ai entendu ça déjà. Quelle tristesse. Que Dieu fasse un jour que le jugement soit imminent. Ça prouvera que la gloire de Dieu est revenue dans l'église. Voulons-nous voir la gloire de Dieu? Vous avez des enfants? Est-ce que vous aimeriez qu'ils voient la gloire de Dieu? Vous allez en avoir des enfants? Est-ce que vous aimeriez que vos enfants voient la gloire de Dieu? Tout ça, ça se prépare avec un cœur sérieux. Lisez le livre des Actes. Vous savez, quand on veut voir la gloire de Dieu, on se dit, voilà, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Les 120 ont payé le prix. Vous savez, il ne faut pas grand monde. Il faut un peuple bien disposé. Peut-être qu'ils auraient été que 50. Est-ce que ça aurait été pareil avec 50? Eh? Oui, moi je pense. Mais Dieu avait trouvé un peuple. Jean-Baptiste avait fait son travail. Le cœur du peuple s'est préparé, le sacrifice a été donné et la gloire de Dieu pouvait descendre. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut premièrement que la maison du Seigneur soit une maison de prière. Nous avons des réunions de prière le mardi soir. Combien je vous encourage. Je sais que c'est déjà une épreuve de trouver une place pour se garer. Mais quand même, est-ce que ça ne vaut pas la peine que nous venions et que nous intercédions? Car pour beaucoup, comme du temps d'âgé, quand il faut choisir entre la prière et le match de foot ou autre chose, je peux vous dire que c'est déjà choisi. Est-ce que vous voulez, dans votre cœur, c'est entre vous et Dieu, est-ce que vous voulez répondre à cette prédication avec quelques mots? Vous savez, Dieu regarde au cœur. Dieu y voit dans votre cœur, là, comment vous réagissez. Si vous dites, oh, cette parole, elle est dure, ben, c'est pas nouveau, remarquez. C'est pas d'aujourd'hui. Il y en a qui le diront. Oh, cette parole, elle est dure. Eh bien, gardez-la comme ça. Mais peut-être que vous dire, j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre. Oui, Seigneur, j'ai entendu. Ce matin, il y a une dame qui m'a dit, j'ai été secouée. Merci, Seigneur. Je sais pas comment vous réagissez. Dieu le voit comment vous réagissez. Vous allez prendre le pain et le vin, vous les chrétiens, vous qui avez été baptisés par immersion, qui vous êtes repentis et convertis. Comment allez-vous répondre à cette prédication? Allez-vous la laisser s'envoler quelques minutes après la sortie du culte? Ou allez-vous prendre au sérieux ce sujet qui réhabilitera l'onction de Dieu dans l'Église pour que sa gloire se manifeste? Quelqu'un veut-il dire oh oui dans mon cœur, Seigneur, je veux que tu m'enseignes la crainte de l'Éternel. Je me rends compte dans mes conversations, dans mon vocabulaire, dans mes propos. Quand je suis... Comment vous vous comportez avec des païens? En vérité, c'est là que vous savez si vous avez la crainte de Dieu. Il y a des chrétiens, quand ils discutent avec des chrétiens, ils sont tout alléluia. Et puis après, il y a des chrétiens, quand ils sont avec des païens, c'est des grosses blagues à deux balles qui montrent vraiment cette adaptation au monde. On appelle ça le caméléon spirituel. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il est rectiligne dans sa piété. Alors je vais prier. Pendant que je prie, vous pouvez aussi prier dans votre cœur. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, tu m'as parlé. Oui, je veux continuer à t'aimer et t'aimer encore plus. Mais je veux la crainte de ton nom, le respect de ta parole, afin que le mal ne m'éloigne jamais de toi. Seigneur Jésus, nous avons vu dans ta parole que ce que tu as parlé du temps du prophète Agé, la crainte est revenue dans le cœur du peuple. C'est ce que nous voulons déjà, que dans cette assemblée, la crainte de ton nom, le respect de ton nom, revienne dans tous les domaines, les petits détails de notre vie, Seigneur. Interpelle-nous, montre-nous à chacun ce qui doit être changé, corrigé, amélioré, ce qui doit être amené à la croix, ce qui doit être déposé. Seigneur, s'il te plaît, ce qui doit être rempli de repentance. Seigneur, tu nous vois. Que ce moment de Sainte-Cène nous permette, Seigneur, de nous éprouver nous-mêmes. Oui, Seigneur, je te prions que l'Église soit sanctifiée, que ton nom soit sanctifié, que tout ce qui est fait soit vécu dans la sanctification, afin que nous puissions te voir. Que nous puissions non seulement jouir de ta présence, mais que nous puissions voir ta puissance se manifester. C'est notre prière, Seigneur, que ton nom soit béni.